Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour à tous. Pour paraphraser le vers de Baudelaire que nous avions déjà eu l'occasion de citer, on aurait bien du mal, lorsqu'on lit et relit l'œuvre de Stéphane Mallarmé, à ne pas voir ses ailes de géant. Toutefois, c'est plutôt la délicatesse d'une aile aux plumes légères, subtiles et raffinées, que l'on rencontre dans son œuvre, comme du reste dans sa vie. Tous ses amis, Mary Laurent, Édouard Manet, Henri Casalis, Claude Debussy, tant d'autres encore, qu'il conviait aux réunions des fameux mardis, à son domicile de la rue de Rome, ont souligné l'extrême raffinement, tant de sa personnalité que de son intelligence. On a pu rappeler, dans l'émission précédente qui lui a été consacrée, l'ambition qu'il nourrit de créer un livre, ou plutôt le livre, qui constituerait l'explication orphique de la Terre. Cependant, les textes qu'il a écrits prennent plutôt la forme d'éventails aux plumes délicates sous le signe d'une indéniable disparate. Des éventails, il en composera même à la lettre 18 sous la forme d'un unique quatrain et dédicacé à autant de femmes. Cette disparate, conduite à citer pêle-mêle et sans souci d'exhaustivité, Hérodiade, L'après-midi d'un faune, Igiture, Les hommages et les tombeaux, ce qui s'intitule Chanson bas, ou encore Les loisirs de la poste, pour culminer, on le verra, avec l'extraordinaire coup de dé. Le raffinement et la subtilité de Mallarmé ne l'éloignent pas d'une indéniable fantaisie qui s'exerce par exemple, et pour cette fois sans le moindre hermétisme, avec Chanson bas, titre qui doit s'entendre par rapport à l'expression « chanter haut » sous la forme de 8 petits poèmes destinés à accompagner des gravures du peintre Jean-François Raffaelli pour ses « Types de Paris ». Lisons tout d'abord le poème intitulé « Le savetier ». Hors de la poix, rien à faire. Le lys naît blanc, comme odeur, simplement je le préfère, à ce bon raccommodeur. Il va de cuir à ma paire, adjoindre plus que je n'eus jamais, cela désespère un besoin de talons nus. Son marteau, qui ne dévie, fixe de clous gouailleurs, sur la semelle, l'envie toujours conduisant ailleurs. Il recréerait des souliers, aux pieds, si vous le vouliez. Ou encore ces évocations des métiers de Paris, sous la forme condensée d'un simple quatrain. Par exemple, le quatrain consacré au vitrier. Le pur soleil qui remise, trop d'éclat pour l'y trier, ôte, éblouit sa chemise sur le dos du vitrier. Ou encore, le marchand d'ail et d'oignons. L'ennui d'aller en visite avec l'ail, nous l'éloignons. L'élégie aux pleurs hésite peu. « Si je fends des oignons ». On peut y voir autant de petits métiers disparus qui agrémentaient le pittoresque du Paris de la fin du XIXe siècle, amusant contrepoint et parfois aussi complément du spleen de Paris baudelairien. On a parlé des éventails bien réels, ornement incontournable de l'élégance féminine de ce temps. Citons-en deux. Un premier éventail dédié à Mademoiselle G.M., donc c'est une dédicace qui demeure secrète, enfin la dédicataire demeure secrète. La voici. « Jadis frôlante avec émoi, ton dos de licorne ou de fée, elle en sienne, donne-moi l'horizon dans une bouffée. » Ou cet autre, qui inclut cette fois le nom de sa dédicataire, Mademoiselle Hérold, comme la lune l'emprit, un blanc nuage pour Cold Cream étant la rêverie de Mademoiselle Herold. Mallarmé se divertissait aussi à composer des quatrains dans lesquels il incluait l'adresse de ses correspondants, des écrivains bien sûr, mais aussi des peintres, des musiciens, des médecins et plus largement tous ses amis. Pour frivole qu'ait été cette entreprise, et on peut pour le moins imaginer l'étonnement des employés des postes, aucune des adresses en verre collationnées n'a manqué son destinataire. Mallarmé, du reste, avait envisagé d'en faire éditer une plaquette illustrée d'ornements dessinés par Mrs. James McNeill Whistler, la femme du peintre. Il n'y a pas moins de 126 quatrains, vrais petits cristaux d'originalité. Citons-en trois. La pièce numéro 112, par exemple, la voici. Que la très subtile Elisa, nymphe des tuyaux et des vannes, cessant d'arroser me lise à l'ombre du 9 boulevard Lannes. Ou encore, la pièce numéro 92, facteur qui de l'État émane, c'est au 9 que nous nous plaisons de te lancer, boulevard Lannes, à la seule entre les maisons. Et enfin, une dernière petite pièce, un dernier petit éventail, le numéro 89, Paris chez Madame Mary Laurent, qui vit loin des profanes dans sa maisonnette Very Select du 9 boulevard Lannes. Pour comble d'une frivolité qui dit assez les traits d'esprit que Mallarmé devait laisser fuser dans sa conversation, on peut évoquer aussi les 8 livraisons de la belle et luxueuse revue, la Gazette mensuelle, intitulée « La dernière mode », qui papillonne sur tout sujet, théâtre, équitation, natation, plaisir de la table, couture, etc. Tout en incluant des textes d'Alphonse Daudet, de Catulle Mendès ou de Théodore de Banville. Mais venons-en à présent à un texte dont le prolongement musical fera date, sacrant aux yeux de certains l'avènement de la modernité en matière de composition musicale. Je veux parler de L'après-midi d'un faune. Dès l'année 1865, Mallarmé choisit d'écrire ce qu'il nomme un intermède héroïque, bien dans la note parnassienne à première vue, l'histoire d'un faune qui souhaite s'emparer d'un couple de nymphes. Mais une seconde version, en 1875, sera interdite de publication par le refus d'un des membres du jury, Anatole France, qui profère à la lecture de ce texte « On se moquera de nous ». On pense à Gide rejetant plus tard l'œuvre de Proust. Il y a donc aussi des béotiens parmi les écrivains. Ce n'est pourtant que fin mars 1876 que l'après-midi d'un faune parut chez l'éditeur de Rennes sous une forme indéniablement raffinée. En effet, cette édition de l'après-midi d'un faune ne compta qu'à peine 200 exemplaires et témoigna d'une recherche et d'un goût particulier. Le Hollande, le Japon et le Chine en furent les papiers choisis. Une couverture de feutre blanc du Japon, frappée d'or sur des exemplaires, fermée par des cordonnets de soie rose et noire, des illustrations d'Édouard Manet, tout concourut à faire, comme le dit longtemps après le poète dans sa bibliographie des poésies, je le cite, « une des premières plaquettes coûteuses et sacs à bonbons, mais de rêve et un peu orientaux ». Lisons à présent ce qui est une églogue, l'églogue étant un petit poème pastoral ou champêtre. C'est le sous-titre de ce monologue de l'après-midi d'un faune. Ces nymphes, je les veux perpétuer. Si clairs, leur incarnat léger qu'ils voltigent dans l'air, assoupi de sommeil touffu. Aimais-je un rêve ? Mon doute amas de nuit ancienne s'achève en mains rameaux subtils qui, demeurés les vrais bois même, prouvent hélas que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose. Réfléchissons, ou si les femmes dont tu gloses figurent un souhait de tes sens fabuleux. Faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus et froids, comme une source en pleurs, de la plus chaste. Mais l'autre, tout soupir, dis-tu quel contraste, comme brise du jour chaude, dans ta toison ? Que non, par l'immobile, hélas, pâmoison, suffoquant de chaleur le matin frais s'il lutte, ne murmure point d'eau que ne verse ma flûte au bosquet arrosé d'accord. Et le seul vent hors des deux tuyaux, prompt à s'exhaler avant qu'il disperse le son dans une pluie aride, c'est, à l'horizon, par remué d'une ride, le visible et serein souffle artificiel de l'inspiration qui regagne le ciel. Ô bord sicilien d'un calme marécage, qu'à l'envie de soleil ma vanité saccage. Tacite sous les fleurs d'étincelles, comptez que je coupais ici les creux roseaux, domptés par le talent. Quand, sur l'or glauque de lointaines verdures, dédiant leurs vignes à des fontaines, on doit une blancheur animale au repos. Et qu'au prélude lent où naissent les pipeaux, se vole de cygnes, non de naïades, se sauve ou plonge. Inerte, tout brûle dans l'heure fauve, sans marquer par quel art ensemble d'étalas, trop d'hymen souhaité de qui cherche le là. Alors, m'éveillerai-je à la ferveur première, droite et seule, sous un flot antique de lumière, lisse est l'un de vous tous pour l'ingénuité. Autre que ce doux rien par leurs lèvres ébruitées, le baiser qui tout bas des perfides assure, mon sein vierge de preuve, atteste une morsure mystérieuse due à quelque auguste dent. Mais baste, arcane tel élu pour confident, le jonc vaste et jumeau dont sous l'azur on joue. Qui, détournant à soi le trouble de la joue, rêve, dans un solo long, que nous amusions la beauté d'alentour par des confusions fausses entre elle-même et notre chant crédule, et de faire, aussi haut que l'amour se module, évanouir du songe ordinaire de dos ou de flanc pur, suivi avec mes regards clos, une sonore, vaine et monotone ligne. Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne syrinx, de refleurir au lac où tu m'attends. Moi, de ma rumeur fière, je vais parler longtemps des déesses, et par d'idolâtres peintures, à leur ombre enlever encore des ceintures. Ainsi, quand des raisins j'ai sucé la clarté, pour bannir un regret par ma feinte écartée, rieur, j'élève au ciel d'été la grappe vide, et soufflant dans ses peaux lumineuses, avide d'ivresse, jusqu'au soir, je regarde au travers. Ô nymphe, regonflons des souvenirs d'hiver, Mon œil trouant légion, dardait chaque encolure, immortel qui noie en long de sa brûlure, avec un cri de rage au ciel de la forêt. Et le splendide bain de cheveux disparaît, dans les clartés et les frissons, ô pierrerie, j'accours, quand, à mes pieds, s'entrejoignent meurtris, de la langueur goûtée à ce mal d'être deux, des dormeuses, parmi leurs seuls bras hasardeux. Je les ravis, sans les désenlacer, et vole à ce massif, haï par l'ombrage frivole, de roses tarissant tout parfum au soleil, où notre ébat au jour consumé soit pareil. Je t'adore, courroux des vierges, ô délice farouche, du sacré fardeau nu, qui se glisse pour fuir ma lèvre en feu, buvant, comme un éclair tressaille, la frayeur secrète de la chair, des pieds de l'inhumaine au cœur de la timide que délaisse à la fois une innocence humide de larmes folles ou de moins tristes vapeurs. Mon crime, c'est d'avoir, gai, de vaincre ces peurs traîtresses, divisé la touffe échevelée de baisers que les dieux gardaient si bien mêlés. Car à peine j'allais cacher un rire ardent sous les replis heureux d'une seule, gardant par un doigt simple, afin que sa candeur de plume se teignît à l'émoi de sa sœur qui s'allume, la petite, naïve et ne rougissant pas, que de mes bras, défaits par de vagues trépas, cette proie, à jamais ingrate, se délivre sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre. Tant pis, vers le bonheur d'autres m'entraîneront par leurs tresses nouées aux cornes de mon front. Tu sais ma passion, que pourpre est déjà mûre, chaque grenade éclate et d'abeilles murmure, et notre sang, épris de qui le va saisir, coule pour tous les seins éternels du désir. À l'heure où ce bois d'or et de cendre se teinte, une fête s'exalte en la feuillée éteinte. Etna, c'est parmi toi visité de Vénus, sur ta lave posant ses talons ingénus, quand tonne un somme triste où s'épuise la flamme. Je tiens la reine, ô sûr châtiment, non, mais l'âme de paroles vacantes et ce corps alourdi, tard succombe au fier silence de midi. Sans plus, il faut dormir en l'oubli du blasphème, sur le sable altéré, gisant. Et comme j'aime ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins, couple, adieu, je vais voir l'ombre que tu devins. Un autre ensemble, ô combien plus grave, celui des hommages et des tombeaux, caractérise l'œuvre mallarméenne. 7 peuvent être retenus, celui qui porte le titre « Toast funèbre », publié dans le recueil collectif intitulé « le tombeau de Théophile Gautier, il y a aussi le tombeau d'Edgar Poe, le tombeau de Charles Baudelaire, le tombeau, c'est le titre pur et simple, mais il est consacré à Verlaine, l'hommage à Richard Wagner et l'hommage à Puvis de Chavannes. Et au seuil de cet ensemble, un simple sonnet d'une morte dont l'identité n'a pas été percée à jour et qui s'exprime directement. Je lis ce texte qui porte simplement le titre « Sonnet » et en sous-titre « Pour votre chère morte, son amie, 2 novembre 1877. » Sur les bois oubliés, quand passe l'hiver sombre, tu te plains, ô captif solitaire du seuil, que ce sépulcre à deux qui fera notre orgueil, hélas, du manque seul des lourds bouquets s'encombre. Sans écouter minuit qui jeta son vain nombre, une veille t'exalte à ne pas fermer l'œil avant que dans les bras de l'ancien fauteuil le suprême tison n'ait éclairé mon ombre. Qui veut souvent avoir la visite ne doit, par trop de fleurs, charger la pierre que mon doigt soulève avec l'ennui d'une force défunte. Âme, aussi clair foyer, tremblante de m'asseoir, pour revivre il suffit qu'à tes lèvres j'emprunte le souffle de mon nom, murmuré tout un soir. Le poète, et n'est-ce pas le cas de tous les poètes, a de solides raisons d'être obsédé par la mort. Sa mère, Elisabeth, mourra lorsqu'il n'aura que 5 ans, sa sœur Marie, dite Maria, mourra à l'âge de 13 ans, et son fils Anatole mourra à 8 ans d'une endocardite. Lisons à présent un autre tombeau célèbre, le tombeau d'Edgar Poe. Tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive nu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange. Eux, comme un vil sursaut d'hydre, oyant jadis l'ange donner un sens plus pur aux mots de la tribu, proclamèrent très haut le sortilège bu dans le flot sans honneur de quelque noir mélange. Du sol et de la nue hostile, ô grief, si notre idée avec ne sculpte un bas-relief dont la tombe de peau éblouissante s'orne, calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur, que ce granit du moins montre à jamais sa borne au noir vol du blasphème épars dans le futur. Le vers, qui était dans le sonnet du tombeau d'Edgar Poe, le vers donnait un sens plus pur aux mots de la tribu, résume presque à lui seul l'entreprise malarméenne tout entière. Il faudrait, pour finir, mais le temps nous manque, évoquer le texte « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard », publié dans une revue en 1897, et c'est cette même année que le célèbre marchand de tableaux Ambroise Vollard proposera à Mallarmé d'en faire une édition monumentale illustrée de lithographies d'Odilon Redon. Coût du volume, 50 francs, une somme considérable pour l'époque. Mallarmé, néanmoins, ne vivra pas assez longtemps pour qu'elle se fasse, puisqu'il meurt le 9 septembre 1898. Le coup de dé constitue à lui seul une révolution poétique. Il ne peut être lu à voix haute, puisque son étonnante disposition typographique impose qu'il soit vu. Le secret qu'il renferme, véritable testament, est scruté par le philosophe Quentin Meillassou dans son livre « Le nombre et la sirène ». Je vous y renvoie, ainsi qu'à l'entretien que Meillassou a accordé à France Culture. Enfin, ce texte est un clin d'œil au titre de l'émission de votre serviteur, puisque Mallarmé affirmera à son propos, je le cite, « La constellation y affectera, dans l'édition Vollard prévue, d'après des lois exactes et autant qu'il est permis à un texte imprimé, fatalement une allure de constellation. Le vaisseau y donne de la bande, du haut d'une page au bas de l'autre, etc. Car, et c'est là tout le point de vue, le rythme d'une phrase au sujet d'un acte ou même d'un objet n'a de sens que s'il les imite et, figuré sur le papier, repris par la lettre à l'estampe originelle, en doit rendre malgré tout quelque chose. » Ce qu'il précise encore dans une lettre à Camille Mauclerc, je cite toujours Mallarmé, « Au fond, des estampes. Je crois que toute phrase ou pensée, si elle a un rythme, doit le modeler sur l'objet qu'elle vise et reproduire, jeter à nu, immédiatement, comme jaillit en l'esprit, un peu de l'attitude de cet objet quant à tout. La littérature fait ainsi sa preuve. » Voilà, ce double volet consacré à Stéphane Mallarmé se termine. Vous avez pu entendre au cours de cette émission tout d'abord la pièce intitulée Syrinx de Claude Debussy, une pièce composée pour la flûte et interprétée par Emmanuel Pahu. Ce Syrinx, il faut savoir que Syrinx était une nymphe qui a été poursuivie par le dieu Pan. Et pour échapper à la lubricité de Pan, cette nymphe s'était changée en roseau. De dépit, et pour se consoler, Pan avait alors coupé deux de ses roseaux, les avait joints avec de la cire d'abeille, et avait ainsi pu en faire un instrument. Ensuite, vous avez bien sûr écouté le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. Et enfin, vous avez pu entendre à la flûte Emmanuel Pahu toujours, La fantaisie de Fauré. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.